Au doux plaisir de se retrouver. Une émission proposée par le musée Marguerite Audoux en collaboration avec Studio 45. Et présentée par Benjamin Chausseron.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour notre émission « Au doux plaisir de se retrouver », épisode numéro 9. Aujourd'hui, notre émission sera entièrement consacrée à la santé et au bien-être. Alors, certains et certaines d'entre vous vont peut-être se demander pourquoi une émission consacrée à la santé et au bien-être, alors que le musée Marguerite Audoux est un lieu culturel et touristique. Eh bien, replongeons-nous dans le passé, replongeons-nous dans les 10 dernières années pour répondre à vos interrogations. Retenons 4 faits marquants qui ont marqué la vie du musée Marguerite Audoux au cours de cette dernière décennie. Premier événement. Lors du Covid, vous étiez tous et toutes confinés chez vous. Le musée Marguerite Audoux, lui, était fermé. Néanmoins, malgré ces difficultés, nous avons organisé une thérapie littéraire pour maintenir le contact avec notre public. Le principe était simple. Nous avions incité tout le monde à écrire une lettre, une bande dessinée, un témoignage, une chanson, afin d'extérioriser ses sentiments, afin de guérir les mots M-A-U-X par les mots M-O-T-S. Et cette animation fut un véritable succès. Deuxième événement, nous avons reçu en septembre 2024 Ghislaine Antoine. Elle nous a présenté son ouvrage intitulé « Souvenirs d'un médecin d'autrefois ». Un livre dans lequel elle racontait l'histoire de son père, médecin en milieu rural. Un sujet qui a parlé à beaucoup d'entre nous. Troisième événement, et j'ai envie de dire une véritable tradition à Sainte-Montaigne. Depuis quelques années, nous organisons au mois de décembre une dictée Marie-Claire dans le cadre du Téléthon. Les fonds sont bien entendu reversés au Téléthon chaque année. Enfin, quatrième événement, et il est tout récent, nous avons organisé en octobre 2025 un spectacle dans le cadre d'Octobre Rose. Ce spectacle, brillamment animé par les Ragnagna, nous a permis de récolter plus de 800 euros à destination de la lutte contre le cancer. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, la santé est directement ou indirectement présente dans notre programmation culturelle au cours de ces 10 dernières années. Et étant donné que notre émission de radio se réalise en parfaite harmonie avec ces 10 ans écoulés, il nous semblait normal d'évoquer la santé dans les épisodes de cette émission. Et nous l'avons déjà fait précédemment. Rappelez-vous, lors de l'épisode numéro 1, nous avions invité Christelle et Mégane. Elles avaient surmonté leurs problèmes de santé respectifs par le biais de la culture, l'écriture d'un livre pour la première et la réalisation de tableaux pour la seconde. Rappelez-vous également, c'était tout récent, c'était lors de notre épisode numéro 8, nous avons évoqué l'inclusion des personnes porteuses de handicap, invisibles ou invisibles, en invitant toutes les forces vives de l'établissement Louis Gatignon de Vouzeron. Alors aujourd'hui, de façon beaucoup plus explicite que lors des deux précédents épisodes, nous allons évoquer la santé. En effet, dans le nord du Cher, il y a plusieurs forces vives. Certaines d'entre elles sont employées, d'autres sont bénévoles au sein d'associations et d'autres sont élus. Mais toutes et tous, ils œuvrent pour développer et sensibiliser à la question de la santé, un domaine qui nous touche bien entendu tous et toutes. Ainsi, dans cet épisode numéro 9, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui mes trois invités suivants. Tout d'abord, Alpha Issaga Diallo, chargé de mission santé au sein du syndicat mixte du pays Sancerre-Sologne. Ensuite, Mathilde Boulet, présidente fondatrice de l'association Dons du sang bénévole Sauldre et Sologne. Et enfin, Jean-Yves Debar, maire de Sainte-Montaine, médecin en retraite, mais également élu en charge du contrat local de santé du pays Sancerre-Sologne. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors maintenant que les présentations sont faites, eh bien commençons par notre première interview.
Odou, plaisir de se retrouver, épisode 9, la première partie de l'émission.
Alpha, rebonjour.
Rebonjour Benjamin, merci de m'inviter et de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce sujet qui nous concerne tous, qui est la santé bien sûr.
Eh bien tout le plaisir est pour moi. Alors lors de cette émission, vous avez choisi de nous parler du CLS. Alors ma première question est assez simple, qu'est-ce qu'un CLS ?
Alors, un CLS, donc, c'est un acronyme pour dire contrat local de santé. Et donc, ce contrat local de santé, en fait, c'est un dispositif qui est né d'une loi qu'on appelle HPST, donc pour Hôpital, Patient, Santé, Territoire, qui a un pilotage de l'Agence Régionale de Santé avec en vue de travailler sur des inégalités environnementales et sociales de santé sur un territoire donné. Donc on a un portage de l'Agence Régionale de Santé en vue de travailler avec une collectivité territoriale.
D'accord. Et quels sont les grands thèmes que recouvre plus précisément votre CLS ?
Alors, notre contrat local de santé sur le pays Sancerre-Sologne, donc pour rappeler qui rayonne sur 50 communes des deux communautés de communes du pays fort Sancerrois, Val-de-Loire et de Sauldre-et-Sologne, donc travaille sur trois grands axes principaux donc, qui découlent d'un diagnostic qui a été réalisé sur ce territoire. À savoir ces trois grands axes qui sont le premier, travailler sur la prévention. Qui est autant la prévention sur les cancers que la prévention qui tourne autour de la santé mentale, de la prévention des maladies cardiovasculaires. Et on a un autre axe qui agit plutôt sur la qualité et l'hygiène de vie, donc passant par l'alimentation favorable à la santé et l'environnement favorable à la santé. Et ensuite, le troisième axe sur lequel repose ce contrat local de santé, c'est le maintien de l'autonomie et l'accès aux soins. Donc dans l'accès aux soins, on retrouve des objectifs qui sont liés un petit peu à l'attractivité du territoire, à la coordination également que peuvent avoir des professionnels qui sont en libéral et ceux qui sont en médecine hospitalière. Donc ce qu'on appelle l'hôpital, le lien ville-hôpital ou hôpital-ville. Donc voilà, et puis le dernier volet de ce taxe-là, ça concerne le maintien de l'autonomie, donc c'est tout ce qui touche à l'autonomie des personnes âgées, parce qu'on est quand même sur un territoire qui est assez important en termes de population âgée.
D'accord, alors rentrons maintenant dans le vif du sujet. En Sancerre-Sologne, comment mettez-vous en œuvre ce contrat local de santé ?
Très bonne question. Donc ce contrat local de santé, comme je vous le disais tout à l'heure, découle d'un diagnostic qui est fait sur un territoire. En fait, donc on a un mandat de l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, qui demande à l'Observatoire régional de santé de mettre en place un diagnostic de santé qui va mettre en avant à la fois les atouts du territoire, mais également les besoins d'un territoire donné. Et en fait, nous, à partir de là, on travaille un programme d'action. Donc, que je vous ai cité tout à l'heure avec les trois axes, qui va ensuite se découler en priorité d'action. En fait, on a une trentaine d'actions à peu près qu'on fixe sur 5 ans. En l'occurrence, sur notre territoire, nous avons signé un contrat local de santé sur 5 ans. Donc c'est comme ça à peu près qu'il se construit. Et de là, en fait, en fonction des objectifs que nous avons, nous travaillons avec des partenaires identifiés compétentes sur tel ou tel sujet. Et on met en place des actions, avec toujours l'idée de la reproductibilité de ces actions-là sur le territoire, ce qui impacte derrière les populations.
D'accord. Et pouvez-vous nous donner un ou voire deux exemples d'actions concrètes que vous avez menées depuis votre arrivée ?
Oui, bien sûr. Alors, je suis en poste au syndicat mixte de Pays Sancerre Sologne depuis février 2023. Jusque-là, nous avons quand même travaillé sur pas mal de sujets, comme par exemple la santé mentale. Nous avons organisé depuis 2023, à ce jour, 3 formations en premier secours santé mentale, qui est un outil qui permet aux gens en fait, de pouvoir faire un repérage précoce de troubles liés à la psychiatrie. Alors, on n'en sort pas expert de ce domaine-là, mais on arrive à repérer de la fragilité chez les gens. Et ensuite, on a derrière de la bouteille qui nous permet de réorienter vers les professionnels qui se chargent de ces personnes-là. On a également travaillé sur le sujet des addictions, donc avec un ciné-débat qu'on a organisé en juin 2024, où on a eu des témoignages de plusieurs professionnels, mais également des acteurs qui sont du territoire. Donc on avait par exemple les gendarmes qui étaient avec nous sur ce projet. On a eu les pompiers qui ont aussi sensibilisé sur tout ce qui touche à l'addiction et également à la sécurité routière. Donc d'autres associations telles que Addiction France, ou Vie Libre qui ont aussi derrière qui sont des professionnels qui ont des compétences sur ce sujet-là. Il y en a d'autres deux sujets sur lesquels nous avons travaillé. Je pense également à la parentalité, également l'accompagnement à la parentalité. Nous avons des conventionnements avec la CAF par exemple pour accompagner les communautés de communes sur tout ce qui est convention territoriale globale. Alors on n'a pas des conventionnements directement avec eux par rapport à ce sujet, mais étant donné qu'on a des besoins très similaires sur ce sujet-là, en fait, on a décidé de travailler ensemble et puis on mène ces actions-là de concert.
D'accord. Et pour terminer, parlons un petit peu du futur. Quels sont les grands thèmes que vous souhaitez aborder dans les années à venir ? Est-ce qu'il y a des publics, par exemple, que vous souhaitez privilégier dans vos différentes actions ?
Alors, en termes de public à privilégier, on reste toujours sur notre public cible qui est toute la population finalement. Et en fonction des différents axes que nous avons établis, on va avoir du ciblage au cas par cas. Par exemple, lorsqu'on travaillera sur tout ce qui touche au maintien de l'autonomie, on sera axé sur la population âgée. Pour tout ce qui touche à l'accès aux soins, un exemple particulier de quelque chose qui arrive bientôt, c'est l'accueil des étudiants en service sanitaire, où nous, on va se mettre en avant en termes de territoire pour proposer en fait de l'accompagnement à des structures qui veulent mettre en place des actions de prévention chez eux. Et derrière, en fait, nous, on est facilitateur de ce projet-là. On va héberger des étudiants qui vont arriver de l'IFSI de Bourges, l'IFSI de Vierzon et également la faculté de médecine de Tours. Donc on met en avant de l'hébergement pour eux, pour qu'ils restent sur le territoire, qu'ils travaillent sur un sujet. Et pourquoi pas un jour de se dire, on reviendra sur ce territoire-là parce qu'on a été bien accueillis et il y a du besoin, en fait, sur ces territoires-là.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Alpha, pour toutes ces précisions.
Merci, Benjamin.
Nous passons maintenant à notre deuxième invité. Rebonjour, Mathilde.
Rebonjour, merci de m'avoir invité.
Alors, vous êtes donc la présidente fondatrice de l'association Don du Sang bénévole Sauldre et Sologne. Ma première question est toute simple. Pourquoi et comment avez-vous créé cette association ?
Alors, en fait, il faut savoir que déjà, sur le nord du département du 18, il n'y a plus d'association depuis plus de 10 ans. Et c'est vraiment une rencontre entre Céline, qui est la présidente de l'association Don du Sang bénévole du Centre Val-de-Loire, donc à l'échelle régionale. Elle a en fait fait un appel sur jeveuxaider.gouv.fr en disant qu'elle voulait essayer de relancer une association sur le nord du département. Et j'ai répondu simplement à cet appel en disant que ça m'intéressait. Parce que moi, ça m'intéresse parce que c'est quelque chose qui fait écho à ce que j'ai vécu. J'ai notamment ma belle-mère qui a travaillé pour le FS de Tours durant des années. Donc pour moi, c'était quelque chose qui est vital de donner son sang et de sauver des vies. Donc c'est un peu tout naturellement que j'ai répondu à cet appel et que du coup, j'ai développé avec Céline l'association sur le nord du département.
D'accord. Et pouvez-vous nous expliquer pourquoi il est important de donner son sang ?
Alors, il faut savoir que c'est vraiment chaque jour, chaque semaine, chaque mois que des millions de personnes ont besoin de sang au quotidien ou de ce qui compose le sang, tout du moins. Et ce qu'on oublie, c'est que leur durée de vie, elle est assez courte, finalement, à ces composants du sang. Pour vous donner quelques chiffres, on a 42 jours pour les globules rouges et seulement 7 jours pour les plaquettes. Donc, c'est important que les dons soient réguliers et constant, justement pour garder un rythme de don. Et pour vous donner un autre chiffre dans le Cher, hein, parce que je vais rester sur le 18 qui est mon département, il faut 205 dons chaque semaine pour répondre aux besoins.
Alors, votre association est aussi sensible au don de plasma, un don qui est souvent moins connu que le don du sang. Pouvez-vous nous décrire son importance ?
Oui, c'est vrai que c'est moins connu parce que le don de plasma est moins évident à faire. Donc, il faut savoir que le plasma, c'est un composant du sang. Il va servir à directement transfuser, mais aussi beaucoup à fabriquer des médicaments. D'ailleurs, c'est 90% du plasma qui va être fait pour fabriquer des médicaments. Donc, ça va être pour les personnes atteintes de cancer ou atteintes de maladies graves comme des maladies inflammatoires, hémophilie, etc. Il va y avoir aussi de la transfusion. Hein. Donc, les 10% restants, ça va être pour transfuser les patients directement. Donc, 47% pour des personnes atteintes de maladies du sang et de cancer. Mais c'est plus difficile puisque le don du sang, on peut l'avoir directement sur des collectes mobiles, celles que du coup j'organise avec l'EFS à Aubigny-sur-Nère et à Argent-sur-Sauldre. Mais on ne peut pas récolter le plasma dans ces collectes mobiles, malheureusement, puisque le dispositif est trop complexe. On ne peut pas le ramener. Donc il faut absolument aller directement à l'hôpital à Orléans dans le 45 ou à Bourges dans le 18.
Et donc, justement, vous avez choisi le territoire Sauldre-et-Sologne pour votre action. Comment s'organisent les dons du sang sur celui-ci ?
Alors, effectivement, j'ai choisi le territoire Sauldre-et-Sologne pour avoir quand même une action un peu plus large que seulement une ou deux communes. Donc là, ça regroupe vraiment toute la communauté de communes. On va avoir 6 collectes par an. 3 sur Argent et 3 sur Aubigny. Donc après, directement, on peut prendre rendez-vous directement sur le site de l'EFS. C'est donc toutes les 8 semaines à peu près qu'il y a une collecte entre les deux communes. Les conditions sont assez simples. Il faut avoir 18 ans, être en bonne santé, venir avec une pièce d'identité, surtout ne pas être à jeun, bien s'hydrater et attendre 2 mois après un piercing ou un tatouage. Et les prochaines dates, on va sur 2026, vous allez avoir le 22 avril, le 12 août et le 9 décembre. Et sur Aubigny, le 25 février, le 17 juin et le 7 octobre.
Merci pour toutes ces précisions. Alors, nous avons déjà échangé ensemble et je sais que vous avez de nombreuses idées pour sensibiliser les gens et promouvoir votre action. Alors, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur vos futurs projets ?
Oui, effectivement, notamment pour se faire connaître, parce que du coup, l'association est toute nouvelle. Pour se faire connaître, du coup, nous avons organisé une marche pour Octobre Rose, parce que comme je le disais précédemment, le don de plasma qui est moins connu permet de sauver les personnes atteintes de cancer. Donc on a choisi Octobre Rose pour notre première marche pour faire savoir cela. Et on va avoir d'autres actions. Alors la prochaine, elle est plutôt simple. On va faire une collation spéciale Noël pour la collecte du 23 décembre à Argent. Donc ça va être pouvoir avoir une collation avec des thèmes de Noël, etc. On va demander à tout le monde s'ils veulent bien venir avec un pull de Noël ou quelque chose comme ça pour rendre ça festif et attractif pour pouvoir toucher plus de personnes que ceux qui viennent d'habitude. Alors après, à plus grande échelle, on a encore plein d'idées pour 2026 et même après, notamment un escape game géant qu'on voudrait organiser sur le thème du don du sang, ce qui permettrait d'allier à la fois la connaissance du don du sang, mais aussi le côté festif. Et pourquoi pas rendre cet escape game aux autres communes, pas faire que sur Argent, mais qu'on puisse le décliner sur les autres communes. Donc c'est vraiment pas mal d'idées qui vont venir pour se faire connaître et pour faire connaître le don du sang.
Eh bien merci beaucoup Mathilde pour votre témoignage et merci également pour votre motivation et votre investissement au sein de notre territoire.
Merci beaucoup.
Alors nous passons maintenant à notre troisième invité. Monsieur Jean-Yves Debarre, donc vous êtes maire de Sainte-Montaigne, et en toute transparence, vous êtes donc mon patron, puisque le musée Marguerite Audoux est un musée municipal situé à Sainte-Montaigne. Alors quand je vous ai demandé l'autorisation pour faire une émission de radio, vous m'avez dit oui, et vous m'avez donné carte blanche pour organiser comme je le souhaitais ces émissions. Donc à mon tour, je vous donne carte blanche en vous posant la première question. Quel sujet voulez-vous aborder aujourd'hui ?
Bonsoir Benjamin. Effectivement, un sujet me tient à cœur. La santé, c'est 20% de soins, je rappelle. 20% de soins, 80% de prévention. Les soins, bien sûr, moi j'ai passé la période où c'était ma préoccupation. Je suis maintenant dans la prévention. Et l'objectif, c'est de mourir vieux, mais en bonne santé. Voilà, si on peut se permettre ce jeu de mots. Voilà. Et en sujet principal, j'avais envie d'intervenir sur les démences. On connaît tous la maladie d'Alzheimer qui fait peur à tout le monde. Mais il faut savoir qu'un tiers des démences sont évitables. Ce sont des démences qui sont différentes de la maladie d'Alzheimer. Elles apparaissent sous la même forme au départ, hein, avec des troubles de la mémoire, un défaut d'acquisition des connaissances. On ne retient pas les leçons, on ne se rappelle plus de ce qu'on a fait la veille, mais on se rappelle de ce qu'on a fait il y a 50 ans. Là, ça m'a dit l'Alzheimer, c'est ça. Mais c'est aussi les symptômes des démences vasculaires. Et les démences vasculaires, si elles ressemblent à Alzheimer, elles ont un mécanisme qui est complètement différent. C'est-à-dire que le support anatomique de ces maladies, c'est l'atteinte circulatoire des artères cérébrales. Et c'est pour ça qu'elles s'appellent démence vasculaire. Et ça, on peut très bien prévenir cette atteinte vasculaire. C'est la même prévention que les accidents cardiaques, ou les mêmes préventions que pour l'artérite. Toutefois, l'alerte n'est pas évidente parce qu'on va facilement attribuer les problèmes de mémoire simplement au vieillissement. Par contre, l'atteinte vasculaire, on retrouve des causes à cette maladie des artères cérébrales. C'est les mêmes que pour les accidents cardiaques. C'est l'hypertension, c'est le diabète, c'est l'hypercholestérolémie et le tabac. On a quatre causes. Si on cumule les quatre, évidemment, les artères cumulent les lésions dues à ces quatre causes. Voilà. Donc je voulais simplement mettre l'alerte là-dessus, parce qu'autant sur la maladie d'Alzheimer, il n'y a pas grand-chose à faire, si on peut résumer les choses comme ça, simplement d'accompagner le malade. Quand on a une démence vasculaire identifiée, on peut éviter l'aggravation, la contrôler, si on maîtrise les facteurs de risque. Je vous l'ai dit, l'hypertension, une tension, c'est 14,9 maximum. C'est les chiffres reconnu par tous les spécialistes cardiaques. Et c'est, autrefois, on disait à 60 ans, on peut avoir 16, à 70 ans, 17, à 80, 18. Ce n'est plus du tout l'attitude actuelle. Au contraire, plus la tension est basse, mieux c'est pour les artères. C'est de la plomberie. Hein. Si la tension est très élevée, les artères, c'est un tuyau, il est abîmé par la pression. Et pour se défendre de cette pression, les parois vont s'épaissir, elles deviennent rigides et la tension monte encore en plus. La deuxième lésion qui abîme les artères, c'est le cholestérol, avec des dépôts de plaques sur ces artères. Le diabète, évidemment aussi, qui amène une atteinte vasculaire générale, hein, d'abord cardiaque, mais aussi vasculaire cérébrale. Et le tabac, hein, connu aussi pour ses méfaits sur les artères. Si on contrôle ces quatre facteurs et qu'on a identifié une démence potentiellement vasculaire, on peut limiter les dégâts, on peut éviter l'aggravation, du moins la ralentir. Par contre, il faut être vigilant sur ces facteurs-là. J'en profite pour dire que l'hypertension, On peut faire contrôler sa tension chez le pharmacien. On a beaucoup d'appareils de tomsure à domicile. Il faut choisir un appareil bras et non pas poignet qui ne sont pas validés par les cardiologues. On peut surveiller sa tension. Le cholestérol, ben, il faut aussi, ça fait partie du bilan classique qu'on peut demander à son médecin traitant et pas se contenter de dire « oui, ma grand-mère avait beaucoup de cholestérol, elle est morte à 90 ans, mais on a oublié tous ceux qui sont décédés avant et qui avaient les mêmes chiffres ». Voilà. Et le diabète, chez un diabétique, la tension maximum, c'est 13,8. Et on n'a pas peur des médicaments. Quand je dis ça, la théorie actuelle qui a été largement répandue au moment du Covid, c'est que les vaccins rendent malades, les médicaments rendent malades. Moi, je conseille à ceux qui disent ça d'aller faire un tour à l'hôpital dans un service de gériatrie ou de cardiologie pour voir les dégâts causés par l'hypertension et des problèmes vasculaires. Voilà. Donc, en résumé, la démence, c'est pas toujours l'Alzheimer. Ça peut être vasculaire, ça peut se contrôler, ça peut s'éviter. Et c'est tant mieux pour tout le monde. Voilà.
Eh bien, merci, monsieur Debarre. Donc, vous avez devancé toutes mes questions. Et donc, à croire que notre duo est bien rodé au fil de ces années. Je n'ai pas eu besoin de vous relancer, donc un grand merci à vous. Donc, pour terminer notre partie santé, donc je laisse le mot de la fin à chacun de mes trois invités. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose que vous auriez éventuellement oublié dans vos interventions, ou juste un message que vous souhaiteriez faire passer à notre public? Vous avez là aussi carte blanche. Alors Mathilde?
La santé, c'est quand même très important. Donc, continuez d'aller voir le médecin régulièrement. Mais pour ma partie, je dirais que c'est important aussi de penser à ceux... Enfin, si vous êtes en bonne santé, justement, pensez à ceux qui ne le sont pas et qui peuvent être soignés par le don du sang. Parce qu'on ne soigne pas seulement des personnes qui ont juste besoin de sang avec une transfusion à cause d'un accident de la route. On soigne des maladies, on fabrique des médicaments, on sauve énormément de vies. Et par exemple, pour le plasma... On est dépendant de l'étranger à près de 50%. Et ce serait bien qu'on diminue cette dépendance à l'étranger et qu'on puisse nous-mêmes soigner nos patients. Voilà, donc donnez votre sang. Merci.
Merci beaucoup. Un mot de la fin, Alpha.
Alors, si je devrais rajouter quelque chose à ce que j'ai dit plus tôt, ce serait deux choses. Le contrat local de santé en lui-même, j'invite quand même énormément de gens qui essayent d'agir sur leur territoire, en tout cas avec une finalité d'agir sur le bien-être des gens, de se poser la question s'il existe un contrat local de santé sur leur territoire, parce que mine de rien, c'est un dispositif qui fait quand même beaucoup de coordination, en fait, auprès d'associations, auprès de professionnels qui gravitent autour du champ médical, du champ social, mais également au niveau collectivité. En fait, on a cette chance-là et cette force de pouvoir rameuter du monde autour d'une thématique qui fait que on arrive toujours, en fait, à mobiliser du monde, et on a un carnet d'adresses qui est très grand. En fait, qui est très conséquent sur tous ces champs-là. Deuxième chose qui a un peu été dite aussi par M. Debarre au début, c'est que la santé, on oublie souvent qu'elle ne se limite pas qu'aux soins. En fait, on peut tous agir sur notre santé. On a ce qui s'appelle les déterminants de santé. En fait, ce sont des facteurs qui vont faire qu'on agit sur notre santé. Donc, sur ces déterminants de santé-là, finalement, le soin n'est représenté qu'à 20% au total. Et tout le reste, c'est de la prévention. On a tout ce qui touche à l'environnement, par exemple, qui peut aller jusqu'à 30%, qui impacte notre santé. Donc, de ne pas se dire qu'on n'a pas les moyens, en fait, d'agir. Il y a toujours des moyens d'agir. Rien que de faire de l'activité physique et d'avoir une bonne alimentation, on contribue énormément à notre santé. Et surtout dans un cadre aujourd'hui où on est face à une pénurie de professionnels de santé sur tous les territoires à peu près. Donc ne pas hésiter à se prendre en main et à être acteur de sa propre santé. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Monsieur Debarre, votre mot de la fin ?
Je voudrais terminer par une boutade. Il faut jeter toutes les trottinettes électriques. Les Italiens ont fait une étude, ont mesuré le débit cardiaque des enfants d'âge scolaire. Ils sont aperçus que la performance cardiaque des enfants avait diminué de 20 à 30%, simplement parce qu'ils ne bougent plus. Hein. Ils grossissent, ils ne bougent plus. Quand vous les voyez avec un portable, des écouteurs et une trottinette électrique, je pense que les parents, ils ont du travail à faire. Et ça fait aussi partie de la prévention. Il faut commencer de bonne heure. Et à l'inverse, les enfants, il faut aussi tanner un petit peu vos parents pour leur demander si la maman ou la grand-mère a fait sa mammographie, si le papa il a fait aussi son dépistage du cancer du côlon. Et voilà, il faut tous se serrer les coudes et puis veiller à la santé de ses proches. Même au sein d'une famille, le travail commence déjà un peu ici, sans virer dans les choses indiscrètes, évidemment.
Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Ouais. Alors, pour faire le lien avec la trottinette, on peut dire que cette première partie de l'émission s'est déroulée comme sur des roulettes. Donc, un très grand merci à tous les trois pour votre action au sein de notre département, et plus précisément son Nord. Et merci pour vos témoignages et d'avoir répondu favorablement à mon invitation aujourd'hui. Ah, alors on me dit dans l'oreillette qu'un certain Gaston veut témoigner. Ah, Gaston apparemment aurait la latte qui se dilate. Eh bien, nous passons la parole à Gaston, qui va nous expliquer tous ses problèmes en chanson. C'est parti.
Depuis que je suis militaire, ce n'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sang-fou. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démanchent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôle, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum, c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Afin de guérir au plus vite, un matin tout dernièrement, je suis allé à la visite, voir le major du régiment. D'où souffrez-vous qui m'a demandé? C'est bien simple que j'y répliquais. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout. J'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur, j'ai les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent, j'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent, les tibias raplapla, les mollets trop épais, les orteils pas pareils. J'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent, j'ai les seins sous le bassin et le bassin qui est pas sain. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Avec une charmante demoiselle, je devais me marier par amour. Mais un soir, comme j'étais près d'elle, en train de lui faire la cour, me voyant troublée, elle me dit, qu'avez-vous? Moi j'y répondis, j'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum, c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout, j'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur, j'ai les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent, j'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent, les tibias raplapla, les mollets trop épais, les orteils pas pareils, j'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent, j'ai les seins sous le bassin et le bassin qui est pas sain. En plus de ça, je vous le cache pas, j'ai aussi, quel souci, la luette trop puette, l'œsophage qui surnage, les gencives qui dérivent, j'ai le palais qui est palais, mais les dents c'est navrant, j'ai les petites qui s'irritent et les grosses qui se déchaussent, les canines se ratatinent, les molaires se font la paire, dans les yeux c'est pas mieux, j'ai le droit qui est pas droit et le gauche qui est bien moche, j'ai les cils qui se défilent, les sourcils qui s'épilent, j'ai le menton qui est trop long, les artères trop épaires, j'ai le nez tout bouché, le trou du cou qui se découe et du coup, voyez-vous, je suis gêné pour parler, c'est vexant car maintenant je suis forcé de m'arrêter. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant.
Mesdames et messieurs, vous avez bien sûr reconnu Gaston Ouvrard et sa célèbre chanson « Je ne suis pas bien portant », une chanson qui a quasiment un siècle. Donc une petite touche d'humour ne fait jamais de mal pour aborder un sujet aussi sérieux que la santé. On remercie beaucoup Gaston. Nous passons maintenant à la seconde partie de notre émission consacrée au bien-être. Alors pourquoi le bien-être ? Eh bien tout simplement parce que nous, en tant que musée Marguerite Audoux, on est très soucieux du bien-être. Le bien-être a trois niveaux. On est soucieux du bien-être des visiteurs lorsqu'ils visitent notre musée Marguerite Audoux à Sainte-Montaine. On est aussi soucieux du bien-être des spectateurs et des spectatrices lorsqu'ils viennent à nos animations culturelles dans notre commune de Sainte-Montaine. Et on est aussi soucieux de bien accueillir nos invités lors de notre émission de radio au doux plaisir de se retrouver sur Studio 45. Alors passons maintenant à l'interview de nos invités concernant le bien-être.
Au doux plaisir de se retrouver, épisode 9, la seconde partie de l'émission.
Alors nous passons maintenant à notre seconde partie consacrée au bien-être. Alors avant de vous présenter nos deux invités, deux petits constats. Le bien-être peut concerner le corps et parfois l'esprit. Eh bien comme vous pourrez le constater, nos deux invités sont très complémentaires par rapport à cette belle dualité. Deuxième constat, rappelez-vous, la belle histoire de notre musée Marguerite Audoux a commencé à Aubigny-sur-Nère au début des années 1990. Eh bien, là aussi, nous allons mettre en lumière deux belles histoires qui viennent tout juste de commencer à Aubigny-sur-Nère lors de cette année 2025. J'ai donc le plaisir de vous présenter dès maintenant nos deux invités pour la partie bien-être. Je reçois Cécile Robinet, réflexologue, et Lucie Tiercelin, conseillère bien-être et fondatrice de Carpe Diem Aura. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, nous passons à notre première invitée, Cécile. Alors, ma première question est la suivante. Quelle est votre activité et depuis quand êtes-vous installée à Aubigny-sur-Nère ?
Alors moi, je suis réflexologue. Je suis installée à Aubigny-sur-Nère depuis le mois de mai. J'exerce au sein d'un cabinet partagé avec une podologue, ce qui favorise une belle complémentarité entre nos approches du bien-être et de la santé.
Alors, en quoi consiste votre activité ?
La réflexologie, c'est une pratique naturelle, manuelle, qui vise à stimuler des zones réflexes situées sur les pieds, les mains ou le crâne. Chaque zone correspond à un organe ou à une partie du corps. Cette stimulation, elle permet de rétablir l'équilibre global, de relâcher les tensions et aussi de favoriser le bien-être physique et émotionnel.
Alors, au sein de votre établissement, que proposez-vous exactement ?
Je propose des séances de réflexologie plantaire, palmaire et crânienne. Chaque séance est adaptée aux besoins de la personne. Détente, gestion du stress, amélioration du sommeil, mais encore troubles digestifs ou hormonaux, ou accompagnement dans des périodes de fatigue ou de transition. Mon objectif est de soutenir le corps dans ses capacités naturelles d'autorégulation.
D'accord, merci pour toutes ces précisions. Alors, à titre, j'ai envie de dire, plus personnel, votre parcours semble assez original. Vous avez fait preuve de beaucoup d'audace pour lancer votre activité en 2025. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Mon parcours, il est avant tout guidé par l'envie d'aider et d'apporter du mieux-être. J'ai choisi la réflexologie parce qu'elle offre une approche naturelle et globale de la santé, centrée sur la personne. Ce changement de voie professionnelle a été une véritable reconversion, motivée par le désir d'exercer un métier, porteur de sens et en lien surtout direct avec l'humain.
D'accord, merci pour ce beau témoignage. Et quelles sont vos ambitions pour les mois et années à venir ?
Je souhaite continuer à développer mon activité à Aubigny-sur-Nère, faire découvrir la réflexologie au plus grand nombre et renforcer les liens entre les professionnels du bien-être et de la santé locale. J'aimerais également proposer à terme des ateliers d'initiation et de prévention pour aider chacun à mieux comprendre les bienfaits de cette pratique et à prendre soin de soi au quotidien. À ce sujet, le samedi 29 novembre, avec mon amie Laurette, facilitatrice holistique, nous proposons un atelier de 2 heures où chacune présentera son activité et donnera des conseils, donc n'hésitez pas à prendre contact.
D'accord, eh bien nous prenons note de cette actualité. Un grand merci à vous d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous.
Alors, nous passons tout de suite à notre seconde invitée bien-être. Rebonjour, Lucie.
Rebonjour.
Alors, ma question est la même que pour Cécile. Quelle est votre activité et depuis quand êtes-vous installée à Aubigny-sur-Mer?
Alors, du coup, moi, je me suis lancée en micro-entrepreneuse il y a peu de temps. Pour le coup, ce n'est pas une activité, mais plusieurs activités que je cumule. Je suis assez polyvalente. Ces activités sont assez complémentaires, donc toujours dans le domaine du bien-être, bien évidemment, d'où ma présence ici aujourd'hui. Actuellement, donc, je suis principalement conseillère en produits naturels, donc plus en herboristerie. À côté de ça, par contre, je cumule aussi le fait d'être une créatrice artisane éthique. Donc moi, je suis revenue à Aubigny il y a à peu près 1 an, donc il a fallu un petit temps de mise en place. Mais du coup, comme a pu le dire Benjamin, je me suis lancée en septembre 2025, donc c'est encore tout récent, je n'ai pas encore de boutique fixe à proprement parler, mais c'est en développement. Et pour le moment, je propose mes services et mes connaissances auprès d'une indépendante qui, elle, a une boutique à Aubigny-sur-Mer, et donc qui partage la même éthique, donc qui est l'atelier des arômes, pour ceux qui connaissent. Et donc mes produits artisanaux, eux, lors d'événements tels que des ateliers, des salons, des marchés artisanaux ou autres, ou par précommande via mes réseaux sociaux que je développe aussi de plus en plus.
D'accord. Et justement, en quoi consiste votre activité de façon générale?
Alors du coup, dans mes activités en général, déjà j'aborde le bien-être de manière holistique. Donc holistique, c'est-à-dire en considérant l'être humain dans sa globalité. Donc pour moi, le bien-être ne dépend pas seulement du corps, mais aussi de l'esprit, de l'émotionnel, de l'environnement et d'un aspect aussi énergétique. Donc c'est en liant tout ceci que mes activités visent à rétablir l'équilibre chez une personne, également à travers sa propre responsabilité d'elle-même, de ses émotions, ou donc de tous ses aspects. Et donc j'utilise mes connaissances, mes expériences et certains savoirs ancestraux auxquels je continue de me former et me suis formée, donc pour des conseils, des créations personnalisées à certaines problématiques et à certains besoins. Donc à travers les vertus des plantes, comme je suis conseillère en herboristerie, le pouvoir aussi de l'introspection, donc un processus qui consiste à regarder à l'intérieur de soi pour mieux se connaître et pouvoir évoluer. Donc j'accompagne en fait de diverses manières au final, tout un cheminement intérieur pour qu'il s'incarne dans la matière, le réel, et permette aux personnes de retrouver leur propre paix.
D'accord, et précisément, que proposez-vous comme animation ou activité?
Alors concrètement, comme c'est un lancement, j'ai plus des choses principales en ce moment, mais ça sera amené à se développer. Je propose donc mes conseils en herboristerie, donc concernant les bienfaits et les vertus de produits naturels, tels que des tisanes à base de plantes, des boissons, mais aussi l'importance d'adopter un mode de vie plus équilibré, donc plutôt de la prévention au final au bien-être, mais qui impacte la santé d'une certaine manière, et donc une manière d'inciter les gens à suivre leur propre rythme et une vie plus saine. Donc ça permet aux gens d'aller vers leur mieux-être, et je propose cela donc à l'Atelier des Arômes, comme j'ai pu le préciser tout à l'heure, à Aubigny-sur-Ner, donc une boutique indépendante de torréfaction et de produits naturels, donc tournée aussi vers le bien-être grâce à sa créatrice, et mes créations, quant à elles, suivent des inspirations selon le moment, déjà, selon le thème. Par exemple, ce mois-ci, c'était un thème beaucoup tourné autour du féminin. Donc, j'ai axé des éditions et un coffret bien-être autour du féminin à travers de l'encens que j'ai créé moi-même, un livret introspectif sur lequel j'ai longtemps travaillé en lien avec le cycle menstruel et le côté un peu plus énergétique et spirituel de la Lune. Donc tout ce petit packaging permet surtout aux femmes actuellement de pouvoir s'introspecter, mais en général, mes créations artisanales permettent aussi un certain bien-être.
D'accord, très bien. Et là aussi, votre parcours semble assez original et très audacieux. Donc pouvez-vous nous en dire quelques mots également, s'il vous plaît ?
Alors oui, bien sûr. Donc mon parcours est guidé déjà par certaines expériences, mes envies et ce qui m'anime. Et bien évidemment, comme toutes les personnes qui ont l'air de se lancer dans le bien-être, aussi une reconversion due à un mal-être à un moment. Donc cette reconversion m'a permis de chercher quelque chose un peu plus en accord avec mon être, mon rythme, mes valeurs et mon équilibre. Donc j'ai cherché aussi à le retransmettre dans mon monde, finalement. Donc je suis partie d'études supérieures de philosophie avec un job, un job étudiant, donc, qui me prenait beaucoup de temps, qui était un rythme assez intense, pour du coup me retrouver à la mission locale, où j'ai pu rencontrer donc Benjamin également, et aujourd'hui développer mon entreprise, donc plus axée sur la santé mentale qui est passé un petit peu au second plan lors de cette période.
D'accord, eh bien merci beaucoup pour votre témoignage. Avez-vous des ambitions particulières pour les mois et années à venir ?
Alors oui, pour les mois à venir, je développerai surtout le côté artisanat et donc créatif, donc à travers aussi l'atelier des arômes, étant donné qu'on va pouvoir participer à certains salons de Noël. Je n'ai pas le nom exact des salons, mais je sais qu'il y en a un à Belleville-sur-Loire, il va y en avoir un aussi à Brinon-sur-Sauldre, je crois. Donc je vais pouvoir, moi, m'exposer en tant que Carpe Diem Mora, et donc mes propres créations, et également représenter l'atelier des arômes. Je souhaite aussi clôturer ou continuer mes formations qui sont en cours pour pouvoir, dans l'année à venir, en tout cas, me lancer en tant que consultante et praticienne. Alors, dans une voie qui peut paraître un petit peu étrange sur le moment, mais dans le chamanisme, donc qui est une voie qui allie justement toutes mes dimensions holistiques. Donc, et puis plus tard, j'ai encore bien plus de projets dans la production de plantes médicinales et aromatiques. Mais ce sera un autre sujet, ça fait beaucoup de projets en cours, mais qui prendront le temps qu'ils prendront.
Parfait, eh bien, nous suivrons votre actualité sans problème, notamment sur les réseaux sociaux. Ainsi se termine la seconde interview bien-être. Donc je tiens à vous remercier vraiment toutes les deux d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode numéro 9. Je tiens vraiment, nous au Musée Marguerite Audoux, on adore les parcours non linéaires, les parcours assez atypiques, puisque Marguerite Audoux a été bergère, ensuite couturière, avant de devenir écrivaine à succès. Donc quand j'ai vu sur les réseaux sociaux vos nouvelles activités respectives, c'est vrai que cela allait de soi à mes yeux de vous inviter. Parce que les parcours atypiques, c'est toujours important de les mettre en lumière, je pense, pour envoyer un signal à l'ensemble de la jeunesse, notamment, pour bien leur expliquer que dans la vie, il n'y a pas qu'une seule forme de réussite, ou bien au contraire, plusieurs formes de réussite. Et le fait d'avoir eu l'audace et la volonté de mettre en place vos activités respectives, c'est tout à fait agréable à suivre au niveau de l'actualité, et vous êtes de véritables passionnés. Je pense que cela s'est entendu lorsque vous avez répondu à mes questions. Donc on suivra avec attention l'évolution de vos deux activités, et je pense que les auditeurs et les auditrices ont aussi découvert vos deux univers, parce que c'est parfois assez mystérieux et des choses que l'on ne connaît pas forcément. Donc si nous avons pu participer vraiment à la mise en lumière de vos deux activités, nous en sommes ravis. Et pour conclure cette partie bien-être, avez-vous toutes les deux un mot de la fin, quelque chose que vous auriez envie, un message à faire passer à notre public, ou tout simplement quelque chose que vous auriez oublié lors de votre interview? Vous avez là aussi carte blanche,
alors, Cécile. Moi, je voudrais vraiment dire qu'il n'y a pas d'âge pour prendre soin de soi, et que c'est important de se consacrer du temps
dans nos vies de tous les jours, en tant que maman, en tant que même personne seule, ou prenez soin de vous. C'est le conseil que je vous donne.
Merci beaucoup.
Et moi, du coup, je souhaite rejoindre aussi Cécile à ce propos, parce qu'on est dans une société qui... Bah, moi, je suis encore assez jeune, j'ai 22 ans, et on est dans une société avec les réseaux sociaux, et même en général, qui va de plus en plus vite, qui laisse quand même de plus en plus place à la santé mentale. Donc ça, c'est une bonne chose, mais qui ne la met pas forcément en avant, parce qu'on est beaucoup dans la performance et dans le fait de faire énormément de choses. Donc je rejoins le « prenez soin de vous » et pensez à votre bien-être et suivez votre propre rythme parfois, parce qu'on peut être surpris de ce qu'on peut faire. Et je voulais aussi également, si possible, donner mes petits, mes petits réseaux.
Oui, vous pouvez toutes les deux, n'hésitez pas, c'est le moment.
Je termine avec mes réseaux sociaux. Donc, vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook, au nom de Carpe Diem, tiré du 8, donc du bas, Aura. Je suis joignable aussi par mail, donc carpediemaura@ecomail.fr. Mais tout est inscrit sur mes réseaux sociaux pour pouvoir avoir un petit peu mon site et toutes ces choses.
Et pour moi, si vous voulez me retrouver sur Facebook, mon site se nomme Réflexologie et Bien-être, et sur Instagram également. Merci à tous.
Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Et j'ai envie de dire vive le bien-être, que ce soit au niveau du corps qu'au niveau de l'esprit. Donc, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à venir découvrir sur place les activités de nos deux invités du jour. Et oui, de très très belles histoires peuvent naître à Aubigny-sur-Nère. Et d'ailleurs, si vous ressortez de chez l'une ou de chez l'autre, il y aura un point commun parmi vous. Vous serez assez zen. Et bien justement, nous écoutons tout de suite Zazie avec sa chanson intitulée tout simplement Zen. Merci à vous.
Qui se prennent à mon filet de voix, pauvre pêcheur. Fallait lire entre mes lignes, ne pas mordre à mes sourdes tumeurs, même si je n'en suis pas. Choc à la chaîne, zen, restons zen.
Ainsi se termine notre épisode numéro 9. Mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté notre émission. On se donne rendez-vous très prochainement pour la 10e et dernière, et oui déjà, dernière émission. Au doux plaisir de se retrouver. À très bientôt, où ça? Eh bien, sur Studio 45, bien sûr.
C'était Au doux plaisir de se retrouver. Une émission proposée par le musée Marguerite Audoux et présentée par Benjamin Chausseron. À très vite pour un nouvel épisode sur Studio 45. Retrouvez dès à présent cet épisode en version podcast au www.studio45-radio.fr.